France Musique.
Moi, je suis ici. Écoutez. Et bougez pas.
Allô, monsieur Isaac Stern. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil. Réalisation, Christine Amado.
Bonjour à tous. Hier, je vous ai dit que l'année 60 allait être le grand tournant de la vie d'Isaac Stern. Aujourd'hui, l'activiste. Francesconi, archiviste de Carnegie Hall, résume très bien la catastrophe à laquelle nous avons échappé. Imaginez New York City. Vous passez devant un grand gratte-ciel au coin de la 57e rue et de la 7e avenue et vous voyez une plaque sur laquelle est écrit « Sur ce site se trouvait autrefois Carnegie Hall, l'une des salles de concert les plus célèbres du monde. » C'est qu'en effet, en 1960, Carnegie Hall a été à deux doigts d'être détruit. Et celui qui l'a sauvé, c'est Isaac Stern. Lui aussi a une formule lapidaire. Pour moi, Carnegie Hall n'est rien de moins qu'une affirmation de l'esprit humain. C'était comme démolir la Scala et la remplacer par un garage. Le monument est historique. Imaginez-vous cette fois le 5 mai 1891, le soir de son inauguration. Tout New York se presse pour découvrir le légendaire théâtre, sa façade en pierre et grès, sa salle imposante mais sobre, toute blanche et or. Ce qui fait sa renommée, c'est son acoustique unique. Le hall porte le nom de son propriétaire, Andrew Carnegie. Et si 2000 mélomanes se sont réunis ce soir-là, c'est parce que l'événement est fêté avec le célèbre compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski. Il dirige sa marche solennelle.
J'ai toujours dit que si on reste sur la scène, quand il n'y a personne dans la salle, avec le plus grand silence, on pourrait peut-être entendre la musique de Toscanini, de Heifetz, de Rubinstein, de Horowitz, de Casals, les grands chanteurs. Ils sont tous là, dans les murs, et les murs qui parlent, et les murs qui disent « Alors, essayez de nous joindre ».
Musicien du monde, Carnegie Hall reste le firmament à atteindre.
Carnegie Hall, c'est pas une salle, pas un bâtiment avec, je connais pas les mots en français, brick and mortar. C'est une mythologie qui est nécessaire. Une grande salle devient comme un autre instrument qu'on peut utiliser quand on est sur la scène. Mais Carnegie, c'est la seule salle dans le monde entier qui, depuis 1891, quand Tchaïkovski a ouvert la salle avec un concert, qu'il n'y a pas un seul ensemble symphonique, pas un seul grand chef d'orchestre, pas un seul pianiste, celliste, violoniste, chanteur qui n'était pas sur la scène à Carnegie Hall. Et pour qui, pour tous les musiciens du monde entier, Carnegie Hall, c'est pour montrer qu'on est arrivé.
Une vieille blague circule. Elle a tant de fois été racontée qu'on n'en connaît même plus l'origine. L'auteur pourrait être Heifetz, Rubinstein ou le violoniste Michael Mann. Un jour, après une répétition, le musicien croise deux touristes perdus dans les coulisses à la recherche de l'entrée de la salle. Il demande « Comment faire pour entrer au Carnegie Hall ?» Sans lever les yeux et continuant son chemin, le musicien répond simplement « Pratiquez !»
À la fin des années 50,
Carnegie Hall a effectivement besoin de quelques réparations et le Lincoln Center, la nouvelle grande salle de musique, est en construction. La question qui peut nous paraître absurde aujourd'hui se pose. Y a-t-il assez de public pour deux grandes salles à New York? Le propriétaire, un certain Simon, souhaite vendre l'espace pour y construire un gratte-ciel rouge et immonde. Quand le magazine Life de septembre 57 montre une photo du projet, Isaac le nomme « la menace rouge ». Allez voir l'image sur notre site, vous allez bondir d'horreur. Le 6 décembre 59, Isaac y donne son 52e concert avec Leonard Bernstein et l'Orchestre Philharmonique de New York. Ils interprètent le concerto de Beethoven. En se disant tristement que c'était sans doute son dernier concert en ce lieu magique, il se rend à une invitation. Je me souviens du froid glacial de cette nuit de début décembre où je me suis rendu chez Jacob Kaplan, un des hommes les plus riches de la ville, doté des plus grandes vertus civiques. Ce soir-là, je lui ai longuement parlé et après m'avoir écouté attentivement, il m'a dit que lui aussi aimerait voir cet édifice sauvé et qu'il réfléchirait sérieusement à ce qu'on pourrait faire. Mais que faire? Ce ne sont que des mots. Isaac part en tournée avec Zakine. Michael, son petit dernier, vient de naître. La vie va, comme toujours, à toute vitesse. Mais tout de même, il reste obsédé par la disparition de Carnegie Hall. Au fond de lui-même, il sait que c'est une question politique. Rien dans ma vie ne m'avait préparé à ce combat pour sauver Carnegie Hall. J'étais musicien, la musique emplissait tout mon être. J'ignorais absolument d'où venait cette capacité soudaine à traiter avec des politiciens, des personnalités influentes et des financiers. Peut-être était-ce lié au fait que j'avais grandi durant les années de la Grande Dépression et j'avais vu comment mon père gagnait à peine de quoi vivre. Puis les nazis et la guerre. Ces années m'avaient sans doute enseigné qu'il est impossible de rester assis sans rien faire, en disant que la politique ne vous concerne pas. Tout ce qui arrive en politique a un effet sur votre vie, sur votre façon de penser, sur le genre de société civilisée que vous souhaitez pour votre pays.
C'était une folie qui est arrivée en 1959. Et tous les musiciens, tous mes amis, tous les artistes que j'ai connus Ils ne peuvent pas comprendre comment on peut même penser de détruire la salle. Et moi, j'ai commencé de faire certaines marches avec des gens dans la politique de la ville. Et finalement, c'était un travail qui a duré à peu près 3 mois. Et finalement, c'était sauvé. Le premier rendez-vous avec des gens en petit comité, c'est dans mon appartement à New York, le 10 janvier 1960.
Devenu l'éloquent avocat de Carnegie Hall, Isaac doit passer des centaines de coups de fil. Il convainc toutes les personnalités qu'il connaît de se rallier à sa cause. Avec Vera, sa femme, il les réunit chez eux. Kapland, des politiques républicains et démocrates, des responsables municipaux, des banquiers, Isaac met même Sol Urok, son agent, dans la boucle. Ses premiers agitateurs vont devenir le comité des citoyens pour Carnegie Hall. Le 7 février 60, une nouvelle réunion a lieu. Le comité précise sa stratégie politique. Il s'agit de convaincre la mairie de New York d'acheter Carnegie Hall. Mais pour cela, une loi fédérale qui l'y autorise doit être votée. Il faut donc que le Parlement la rédige et la propose en session. Le temps presse. Le 2 mars, le propriétaire, M. Simon, demande l'autorisation officielle de démolition. Tous les clignotants sont au rouge. Isaac panique et envoie un télégramme au maire.
Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît.
Ensuite, il envoie une pétition à ses amis, dont voici un extrait. Partout, dans l'esprit des hommes civilisés, c'est la grande porte de l'Amérique musicale. La détruire maintenant, pour des raisons pratiques, serait un acte irresponsable, dommageable aux États-Unis et à notre prestige dans tout le monde civilisé. Tous ont signé. Le timing maintenant est vraiment serré. Le sénateur dépose fin mars un projet de loi permettant l'expropriation, mais y aura-t-il une session de vote avant la date fatidique? Et puis reste le plus gros problème, l'argent. Comment la ville peut-elle trouver 5 millions de dollars pour dédommager le propriétaire, puis louer la salle à une société à but non lucratif? Prélever la somme sur les impôts locaux, pas très politique. Organiser une souscription publique, il faudrait un an pour réunir une telle somme. Reste une solution, que la mairie avance l'argent et lance l'émission d'obligations avec garantie de remboursement sur 30 ans. La démolition est prévue en mai, alors que chacun tremble. Enfin, début avril, le vote parlementaire autorise la ville à préempter Carnegie Hall. Encore faut-il qu'elle s'y décide, et vite! Il ne reste plus que 3 semaines avant que les bulldozers n'entrent en action. Arrive le 11 avril, jour de la Pâque juive. Isaac et Vera acceptent une invitation chez le rabbin Israël Goldstein. À sa grande surprise, le couple se retrouve à la table de Wagner, un nom qui ne s'invente pas, c'est celui du maire de New York. Le seder est long et ennuyeux. Isaac, on le sait, est non pratiquant. Il s'ennuie ferme, et le maire aussi. Ils repartent alors ensemble à pied. Arrivé en bas de chez les Stern, Isaac invite le maire à boire une petite bière bien fraîche de fin de soirée, ce qui ravit Wagner. Et on comprend bien qu'à la deuxième bière, le maire, qui est mélomane, a rassuré son hôte. Avril-mai, le propriétaire M. Simon accepte la proposition de la mairie et la société à but non lucratif Carnegie Hall Corporation est créée. Le 16 avril, Isaac repart en tournée pour la deuxième fois en URSS. Lorsqu'il reçoit un appel, il est nommé président de la Carnegie Hall Corporation. Ainsi, le 27 septembre 60, on se presse à nouveau au coin de la 57e rue et de la 7e avenue pour le gala d'ouverture. La salle a été repeinte, les dorures brillent, les sièges de velours sont neufs, la façade a été nettoyée. Il paraît même qu'on a fait venir des orchidées d'Hawaï pour décorer la salle. Tout New York est là. Et Isaac, qui avait quitté Carnegie Hall avec le New York Philharmonic et Leonard Bernstein sur le concerto de Beethoven, passe la porte à nouveau pour jouer quoi ? Le concerto de Beethoven avec Leonard Bernstein et l'Orchestre Philharmonique de New York. En entrant sur scène, se rappellera toujours Isaac, j'ai vraiment senti mes genoux trembler. Je connaissais le trac, mais je ne l'avais jamais encore ressenti à ce point. L'atmosphère était chargée d'émotions. J'avais à peine fait une demi-douzaine de pas sur scène que le public s'est levé et m'a acclamé à grands cris. Lorsque les applaudissements se sont calmés, nous avons commencé à jouer. Mais Isaac est si ému qu'il casse une corde en plein premier mouvement. Il change de violon et le concert est un immense succès. Juste avant de saluer, Leni Bernstein se penche vers Isaac et lui murmure à l'oreille « N'est-ce pas merveilleux d'être jeune et célèbre ?» Carnegie Hall est la première action politique d'Isaac.
Je n'ai pas pensé de la politique à ce temps-là. Je devrais apprendre comment utiliser la vie politique. Mais pour moi, à ce temps-là, il y avait pas mal de gens qui ont dit qu'il a eu un succès parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Peut-être on pensait de... Non, naïf. Et certainement, pour moi, il n'y avait pas une question. Mm. Ce n'était pas possible de détruire l'histoire de la musique en Amérique. Mm. Et finalement, les autres ont compris au moins, aussi bien que moi.
En tout cas, Carnegie Hall rouvre à nouveau tout grand ses portes. Et on y entend des concerts inouïs. Un en particulier, le 26 décembre 60. Un événement qui a ébranlé le monde de la musique. Sviatoslav Richter pour la première fois à New York. Notre Monsieur le Président Isaac Stern et son board dédient Carnegie Hall à la jeune génération de musiciens. La salle doit servir de tremplin aux inconnus et doit programmer de la musique du XXe siècle. Elle doit offrir des concerts pour les enfants et proposer des ateliers de formation professionnelle. Mais Carnegie Hall, par tradition, doit rester aussi la salle de toutes les musiques. Benny Goodman, qui avait donné un concert légendaire en 38, revient. Il est présenté par un monsieur loyal, un certain monsieur Isaac Stern himself.
To continue this tribute, we reach into our rich musical heritage of jazz. Carnegie has been host to some brilliant concerts in this unique, peculiarly American form of vitality in music. And who could represent that more beautifully and more strongly than the beloved and respected King of Swing himself, ladies and gentlemen, Benny Goodman and his sextet. Thank you.
Comme la salle doit aussi faire des recettes pour rembourser son emprunt, elle crée l'événement au hasard. Je vous propose le 12 février 64. Ça vous dit quelque chose?
Right about now, I would like to bring on somebody for you. Want to tell you that, ask you to help me make this introduction. I'd like to say a name, and I'd like you to repeat the name. And then when we get through, we'll all add it up, and it ought to have some fun for you. Are you ready? Let me say it first, you repeat it after me. John! Paul! Ringo! George! I give you the one and only Fabulous Beatles!
She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah.
Allô, Monsieur Isaac Stern? Emmanuel Franc, France Musique, c'est l'été.
Il n'est pas prêt de se reposer, notre Isaac. Il continue ses tournées avec son accompagnateur, Alexander Zakin, et les grands orchestres du monde. Et voilà que l'occasion de reformer le trio se présente à la fin de l'été 61, avec le premier festival d'Israël. Alexander Schneider a mis sur pied un programme de musique de chambre et y a inclus le trio Histomin, Stern, Rose. Cette fois, le trio obtient un immense succès. Pourtant, Isaac arrive éreinté. Le programme, qui évidemment n'est pas rodé, est énorme. 9 concerts en 20 jours et autant de répétitions. Des conditions de voyage très difficiles, de petites villes en kibboutz. Rapidement, Léonard Rose doit porter une Minerve. Eugène Histomin souffre d'une tendinite. Et, le plus épuisé de tous, celui qui n'a mal nulle part et reste toujours relax, eh bien, c'est Isaac. Ils donnent leur dernier concert dans l'amphithéâtre romain de Césarée, face à la mer. La ferveur du public, en un lieu si idyllique, restera un souvenir pour toujours. Suivante est une série à Londres en novembre et décembre au Royal Festival Hall. Il y a des échos dans toute la presse britannique dès leur arrivée. Ils respirent ensemble. Il n'existe pas de mots pour rendre compte de tels moments. Et puis les Anglais sont ébahis. Abandonner leur activité de soliste lucrative pour prendre le temps de répéter longuement, ce qui est absolument indispensable pour faire de la musique de chambre à un haut niveau, c'est comme faire un vœu de pauvreté. Mais c'est au printemps 1962 que le trio Histomine, Stern, Rose part à la conquête de New York. Prudemment, il donne deux concerts à l'auditorium du Metropolitan Museum et pas encore au Carnegie Hall. D'emblée, pourtant, la critique est enthousiaste. Trois grands musiciens jouent pour leur propre plaisir et le public est juste assis là, plein de reconnaissance qu'une telle chose soit possible. Suite au succès de New York, il décide d'allouer quelques semaines par an à un nombre limité d'engagements en Amérique du Nord et en Europe. Le trio prend de plus en plus d'ampleur dans leur vie de musicien. C'est une délectation, mais parfois aussi un enfer. Leurs sensibilités musicales sont si proches que les différences sont rares. Mais quand ils surviennent, ils ont tendance à être montés en épingle. Jugez-en, Histomine. Quand vous essayez de réaliser quelque chose à un haut niveau, il doit absolument y avoir une décision autoritaire. L'art n'est pas une démocratie. Isaac, je n'ai pas de scrupules à dominer, parfois à écraser un partenaire dans une situation donnée, quand je sens qu'un paroxysme, un crescendo, serait avorté si je freinais mon énergie et mon élan. Le problème est souvent la prééminence du piano. Après un concert, Léonard et Isaac reprochent à Eugène d'avoir joué trop fort. Le suivant, Histomine fait exprès de ne pas dépasser le mezzo forte, ce qui rend furieux ses partenaires. Mais en réalité, le plus souvent, quand il y a un problème à dénouer, la solution est confiée à celui qui est en charge de la ligne mélodique dans le passage concerné. En tournée, ils se découvrent les uns les autres. Léonard Rose est, d'après Isaac, complètement névrosé et joue en permanence sur les nerfs. Il travaille un certain nombre d'heures chaque matin et les jours de concert, à 4 heures pile de l'après-midi, il lui faut un steak garni. Par ailleurs, il est toujours en avance. Isaac voit Eugène Histomine comme un musicien profondément sensible et intuitif. Il est aussi un lecteur vorace, hyper prêt à chaque répétition. Aussi méticuleux en musique que dans la fabrication des martinis. Amateur de baseball, il commet une faute de goût. Il soutient les Detroit Tigers face aux deux New-Yorkais. Ça ne se fait pas. Stern est tout de même celui qui a le plus à se faire pardonner. Il arrive aux répétitions très mal préparé, à la désastreuse manie d'être en retard et d'oublier ses partitions, ce qui a le don de mettre Histomine hors de lui. Quand il essaye de discipliner Isaac sans prendre de gants, « Tu joues faux, ce n'est pas ce qui est écrit, tu pourrais travailler. » Celui-ci répond « Tu es en train de faire de moi un violoniste allemand. » Thank you. Mais il y a un vrai conflit, inhérent à tous les trios. Rubinstein, lorsqu'il jouait avec Heifetz et Piatigorsky, racontait souvent une histoire. Heifetz prenait assez mal toute la publicité qui nous était faite. Les noms Rubinstein, Heifetz, Piatigorsky y étaient toujours dans ce même ordre. Pourquoi ne pas changer un peu et mettre chaque nom en premier à tour de rôle, disait Yasha. « Je n'y verrai aucun inconvénient, répondis-je d'un ton indifférent, mais autant que je sache, tous les trios sont édités pour piano, violon et violoncelle. Et il est de tradition d'annoncer les interprètes dans ce même ordre. » Il en fallait davantage pour que Yasha se rende. « J'ai vu des trios édités pour violon et violoncelle avec accompagnement de piano, dit-il. » La moutarde me montait au nez. « Yasha ! » criai-je. Si Dieu le Père jouait du violon, on imprimerait toujours Rubinstein, Dieu le Père et Piatigorsky. Or, Isaac, si à l'aise avec chacun, si chaleureux et attirant, ne se rend pas toujours compte de la place qu'il prend. Les journalistes ont une fâcheuse tendance à ne s'adresser qu'à lui. Columbia, où les organisateurs de concerts jouent évidemment sur la grande notoriété d'Isaac. Ainsi, un article du Saturday Review a failli s'intituler « Le trio Stern ». Mais le pire se passe à la Maison Blanche en 1963.
It's Mona Lisa Day in Washington. In the West Statuary Hall of the National Gallery of Art, nearly 2,000 first-nighters, including the First Lady, stunning in a long pink dress, see President Kennedy introduce the world's most famous painting to Americans. France's Minister of Cultural Affairs, André Malraux, and Madame Malraux share the great moment.
C'est un grand événement politico-culturel. Kennedy accueille André Malraux à la Maison Blanche pour célébrer la venue de la Joconde en Amérique. Toute l'intelligentsia américaine est présente et c'est au trio Histomine-Stern-Rose, devenu l'attraction du moment, que l'on demande de venir jouer devant cette prestigieuse assistance. Sauf que Kennedy, dans son discours, fait une énorme gaffe. Il commence par « Je tiens à remercier M. Isaac Stern et ses deux accompagnateurs. » En 1961, Columbia, la maison de disques d'Isaac, a une belle idée. Elle demande à Stravinsky de diriger le violoniste dans son concerto en ré. Apparemment, le feeling est passé entre les deux musiciens.
C'est un homme, un des plus intelligents, un des plus clairs, un des plus profonds que je connais, et qui peut voir avec clarté les forces et les faiblesses dans la musique et les musiciens de notre époque. Et il n'a pas peur de dire ce qu'il croit. Nous avons fait son concerto pour violon, j'ai fait avec lui. Et depuis ce temps-là, nous sommes très amis.
En 1961, lorsqu'Isaac Stern revient en Israël, il retrouve les deux jeunes musiciens, Zuckerman et Perlman, qu'il avait rencontrés en 1957 lorsque ses enfants avaient 7 ou 8 ans et qu'il s'était promis de suivre. Pinchas Zuckerman a maintenant 13 ans. Il le trouve prodigieux. Comme il participe à l'America Israel Cultural Foundation, une organisation qui aide des jeunes à venir étudier aux États-Unis, il fait entrer le petit Zuckerman dans ce programme et organise même son accueil à New York chez les parents d'Eugène Istomin. « Isaac est mon mentor, mon père, mon pote », dit Zuckerman. L'autre protégé d'Isaac, qu'il surveille comme le lait sur le feu, c'est Isaac Perlman. Il n'a même plus de superlatif. Isaac a le souffle coupé quand il le réentend. Voilà les deux protégés d'Isaac en duo. Suite après les avoir écoutés, Isaac, qui doit poursuivre sa tournée vers Paris, appelle son agent Sol Urok. « Papa, viens à Paris, je t'offrirai du caviar aux Fouquets et nous parlerons. » Sol Urok, « Je n'ai pas le temps. » Isaac, « Je n'ai pas le temps non plus. Isaac décide, alors même qu'il joue tous les soirs, de faire un aller-retour express Paris-Londres et donne rendez-vous à A Rock tout simplement à la cafétéria de l'aéroport anglais. Il lui parle de Zuckerman, qui intéresse immédiatement l'agent, puis ajoute « J'ai un autre grand talent pour toi. Il y a aussi ce garçon, Isaac Perlman. Je crois n'avoir jamais entendu un talent aussi fantastique. Il fait maintenant des choses incroyables, mais il y a un problème. Il marche avec des béquilles. » Des béquilles ? Ah non, ne recommence pas, c'est impossible, se met en colère Europe. Papa, écoute-moi. C'est un réel talent, peut-être même l'un des rares talents vraiment grands. À la fin, les deux hommes se serrent la main. Isaac reçoit ses protégés chez lui à New York et les fait travailler. Il les épuise à force de leur demander de se justifier. « Pourquoi tu joues cette phrase comme ça ?» Ils peuvent rester 2 heures sur 3 mesures. La suite, nous la connaissons, c'est la carrière de ces 2 immenses violonistes. Prodige qu'il prend sous son aile, le tout petit Yo-Yo Ma. C'est Antoine Vatelot, l'ami, le vieux frère, le luthier de ses rêves, qui a écrit à Isaac « Je connais une famille chinoise. Ils ont un jeune garçon de 6 ou 7 ans, tu devrais l'entendre, il est incroyable. » C'est donc toujours en 62 qu'Isaac découvre le garçonnet plus petit que le violoncelle qu'il joue. Coup de cœur. Isaac aide la famille Ma à venir aux États-Unis et confie Yo-Yo aux mains de Léonard Rose. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire découvrir une délicieuse archive où Léonard Bernstein présente Yo-Yo et sa sœur au public américain, où l'on apprend que le gosse a rencontré Casals. Grâce à qui, on se le demande. Quoi qu'il en soit, le discours de Bernstein me paraît bien proche de celui d'Isaac lorsqu'il présentait Benny Goodman. Oui, la musique en Amérique vient de toutes parts. En cela, Yo-Yo Ma est un parfait Américain.
A yo-yo came to our attention through the great master Pablo Casals, who had recently heard the boy play the cello. Yo-Yo is, as you may have guessed, Chinese, and has lived up to now in France, a highly international type. But he and his family are now here. His father is teaching school in New York, and his 11-year-old sister, Yu Cheng Ma, is pursuing her musical studies.
Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Yo-Yo Ma, accompagné par sa sœur Yu Cheng Ma, qui vont interpréter le concertino de Jean-Baptiste Bréval.
Play the first movement of the concertino number 3 in A major by Jean-Baptiste Bréval, who played, taught and composed for the cello 150 years ago in France.
Et voici l'image culturelle sur laquelle vous allez pouvoir méditer pendant que vous écouterez un violoncelliste chinois de 7 ans interprétant une musique ancienne française pour ses nouveaux compatriotes américains. Bienvenue à Yo-Yo et Yu Cheng Ma. A Rock ne se fait pas prier pour prendre le jeune violoncelliste dans son écurie. Ensuite, Isaac, comme Pierre Monteux l'avait fait pour lui après leur premier concert lorsqu'il avait 16 ans à San Francisco, écrit des lettres à Lorine Mazel, Seiji Ozawa, André Prévin et Georg Scholti. Tous ont invité Yo-Yo Ma. Les voilà, le maître et l'élève, des années plus tard, dans le double de Brahms. Ils sont au ciel, et ce n'est pas pour la galerie. Un dernier mot sur ces rencontres avec de très jeunes musiciens. Vous voyez à quel point Isaac s'est engagé auprès d'eux, à Carnegie, en Israël, n'importe où au monde, et ce n'est pas fini. Il va nous faire découvrir beaucoup de jeunes musiciens dans les années qui viennent. Isaac a souvent été reçu à la Maison Blanche. Le 22 novembre 63, sa dernière visite remonte à 3 semaines. Ce jour-là, il part pour San Antonio et fait escale à Dallas. Au moment où il s'engage vers son terminal, il entend un membre d'équipage dire « Kennedy vient d'être assassiné ». C'était 30 minutes après l'attentat.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Isaac devient fou. Je me demandais comment il pouvait continuer à diffuser les annonces d'arrivée et les départs. Dans une boutique, j'ai vu quelques postes de télévision et je suis entrée. J'ai regardé quelques minutes et j'ai vu les reporters, la police, les ambulances et les gens devant l'hôpital. L'homme qui gérait le magasin s'est approché de moi et m'a demandé « Vous regardez, vous achetez la télévision ?» C'est uniquement parce que l'instrument que je portais était magnifique que je ne lui ai pas lancé l'étui à la figure. Isaac appelle sa femme, ses amis. Un musicien de Dallas le rejoint avec une bouteille. À l'époque, on ne servait aucun alcool dans les aéroports. Tous deux, hébétés, regardent la piste par la baie vitrée où est posé l'avion présidentiel Air Force One qui va emporter le corps de Kennedy. L'organisateur du concert à San Antonio le supplie de venir quand même. Isaac passe la nuit devant la télévision avec une autre bouteille de bourbon. Quand il entre seul sur scène, il y a 4000 personnes dans la salle. Il s'adresse au public. Il existe de nombreuses façons de prier. Les musiciens prient parfois en jouant certaines musiques. Je jouerai du Bach. Cela prendra 15 minutes. Je vous demanderai de ne pas applaudir à la fin. Je vais jouer la chaconne. Le 10 mai 61, le chef d'orchestre Eugène Ormandie écrit à Isaac Stern, avec qui il enregistre plus d'une dizaine de disques ces années-là, c'est dire si ces deux musiciens s'aiment. « Isaac, même si tu n'as que 40 ans, tu en fais trop et je ne veux pas que tu le paies par la suite. Alors écoute le conseil paternel d'un ami et ralentis. Tu n'as pas besoin d'une renommée internationale, tu l'as déjà. » J'espère que tu trouveras l'occasion de te reposer et de te détendre.
Thank you.
Nous sommes toujours en 1963 et le 21 mai naît son troisième enfant, David. C'est la première fois qu'il peut assister à l'accouchement. Il a conscience de l'anormalité de son existence et il avoue. En un sens, la vie d'un artiste est très égoïste. Par nécessité, il pense constamment et parfois uniquement au besoin qu'il a de remplir ses responsabilités professionnelles, ce qui met en danger la vie quotidienne ordinaire de sa famille. Au début, Isaac et Vera emmènent les enfants en tournée. Toute la marmaille vagabonde dans les grands hôtels, rendant dingue le personnel et la nounou française Marthe Fougère qui fait toujours partie des voyages. Mais une fois scolarisés, Shira, Michael et David ne peuvent plus suivre. Les séparations sont longues pour le couple symbiotique Isaac-Vera. Ils ont trouvé un moyen de communiquer. Dès 61, ils enregistrent des cassettes audio. Quand un inspecteur des douanes demande à Vera la valeur du paquet qu'elle reçoit d'Europe, elle n'a qu'une réponse. Pour moi, $1 million. Le paquet contient ce genre de lettres enregistrées. Salut à tous, je vous parle de Belgique. Il est assez tard, je suis au lit presque dans le noir. Je ferme les yeux et je m'imagine que je peux vous voir pendant que je vous parle. Quand vous recevrez ce message, Michael, écoute papa. Oui, viens par ici, ne t'en va pas en courant. Reviens, assieds-toi, c'est ça. Et maintenant écoute. Et toi, Shira, ne le pousse pas. Tiens-le pour qu'il soit vraiment près de toi, que vous soyez tous ensemble et que vous puissiez entendre ce que je vous dis. Il les embrasse un à un, leur distribue des « je t'aime » et conclut « Bon, maintenant les enfants, ça suffit pour cette fois. Je veux parler longuement à maman maintenant. » Et ce qu'il a à dire à Vera est loin du discours officiel. Par exemple, cette interview de 1963.
Les concerts et les œuvres, ce n'est pas la même chose. De temps en temps, pendant une tournée des mois, on se trouve dans une ville et on se demande « Pourquoi je suis ici? Pourquoi pas avec ma famille, avec mes amis ?» Mais enfin, le moment qu'on est sur la scène, on oublie tout. Et on sait pourquoi on est là et pourquoi on est musicien.
Et maintenant, ce qu'il a écrit à Vera. « J'ai tardé à t'écrire parce que j'ai travaillé comme un fou, absolument tous les jours, avec soit des répétitions, soit des concerts, soit des voyages. Je sors juste d'une répétition de 3 heures ce matin et je dois jouer les 2 concertos ce soir. Il est 14h30, je n'ai pas déjeuné et je porte encore mes vêtements de répétition qui sont tout humides. Je dois y retourner et essayer d'être à nouveau en forme pour ce soir. » En plus, demain matin, je dois faire mes bagages et un excellent violoniste vient me jouer quelque chose. À midi, je dois aller au conservatoire, parler à des étudiants et écouter leur orchestre. Puis dans l'après-midi, je dois prendre l'avion qui arrive tard dans la soirée. Je vais donc m'arrêter là. Un peu plus tard donc, je dois te dire quelque chose de très bizarre. Je me suis sentie tellement déprimée il y a 3 ou 4 jours. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vois des amis et je m'amuse ici et là. Je sors dîner, déjeuner selon le cas, mais je suis fatiguée de parler aux gens. Je me sens en quelque sorte inutile, car je voudrais à nouveau m'impliquer dans tant de choses et faire partie de nos vies à nous, à New York. Et je me sens coupée de vous. Lorsque je commence à parler des enfants, je ne peux pas te dire à quel point j'aimerais les serrer dans mes bras, être avec toi, te serrer aussi dans mes bras, être avec toi. Et tout cela est bien loin, je t'assure. Je ferais mieux de ne pas aborder ce sujet, sinon je vais recommencer à me sentir mal.
Allô, monsieur Isaac Stern ? Emmanuel Franc, France Musique, c'est l'été.
Isaac et Vera ont acheté une maison dans le Connecticut en 63. Enfin un lieu de détente familiale avec leurs enfants et Rondo Capriccioso, un énorme chien. Isaac Stern a entièrement aménagé sa maison de campagne, laquelle en soi n'est pas luxueuse, mais il y a installé ce qu'il estime des commodités modernes partout où c'est possible. Évidemment, des téléphones dans toutes les pièces. Dans sa chambre, un grand écran de télévision qui descend du plafond, un jacuzzi, les petites folies d'Isaac. Et bien sûr, il a fait poser sa table de pierre sous le grand chêne du jardin, avec ses prises de téléphone, son appareil anti-moustique. Il y a du soleil, les enfants jouent au foot, Vera répond au téléphone, et Isaac, moi je le vois bien faire la sieste, s'astreindre peut-être à répondre à ses courriers ou lire un polar. J'imagine qu'il y a aussi un terrain de tennis sur sa propriété. Rappelez-vous, c'est sa grande passion. Il y a toujours joué. Ne ratez jamais Roland-Garros ou Wimbledon. Il est très fier d'avoir disputé un jour un match avec Connors. Cela s'entend, non? Cet Isaac, physique, impulsif. Mais oui, il match avec son violon. Jouer mieux, toujours mieux à chaque concert. Mais c'est gagner les sets les uns derrière les autres, non? Un peu plus haut derrière la maison, il a aménagé son studio de musique dans une dépendance. C'est l'occasion de jamais d'évoquer la façon de travailler d'Isaac. D'abord, il affirme qu'il ne lui est pas nécessaire de travailler plus de 4 ou 5 heures par jour. Ensuite, il explique. Mes meilleures heures de travail sont de 11h à 4h du matin. Le monde entier est calme et je fais alors beaucoup de travail. Mais ce n'est pas perceptible car je suis disponible pendant la journée. Pour découvrir une œuvre nouvelle, il commence toujours par la travailler dans son intégralité afin de se familiariser avec la structure. Puis il la rejoue uniquement pour la ligne mélodique et c'est seulement après qu'il aborde les difficultés techniques. Zakin, le fidèle accompagnateur d'Isaac depuis 49, approuve. Isaac travaille avec logique. Il a le don précieux de la concentration sélective. Il absorbe les bonnes choses et ignore les mauvaises. Il ne travaille pas simplement parce qu'il le faut, comme tant d'autres violonistes, mais il se concentre sur des difficultés spécifiques d'intonation, de vitesse, de dynamique, de coup d'archet, de doigté. Il n'accepte aucun doigté, pas même ceux de professeurs ou d'éditeurs éminents, mais il conçoit toujours les siens. Il apprend vite. En fait, il lui faut moins de temps pour maîtriser une pièce que tout autre musicien de ma connaissance.
Incredible play by McCoy in the snow. Bills have to be careful here. No timeouts. Peterman to the end zone. It's caught by Benjamin. Touchdown.
Tout cela amuse beaucoup l'un des fils d'Isaac, David. Il me confie que pendant la saison de football, son père s'entraînait avec le téléviseur allumé et le son en sourdine. Lors de leur tournée, le trio donne maintenant l'intégrale des Beethoven et des Brahms, le Mendelssohn et le 898 de Schubert. En 64, à Carnegie Hall, le succès est tel qu'il faut rajouter plusieurs centaines de sièges sur la scène. Ils sont fous de joie. Isaac, je suis si fier de ce trio que j'ai envie de le crier sur tous les toits. Quant à Histomine, pour moi, ce qui importe, c'est garder l'esprit de fête.
Thank you.
En 64, si Isaac est fidèle à Ormandie et Zelle, il ne l'est pas moins avec son ami Leni Bernstein. Ils enregistrent le concerto pour violon de Barber. Isaac Stern achète le Guarnerius d'Isaïe en 65. En l'écoutant, je me demande, de qui parle-t-il ? Lui-même ou son violon ?
Je joue le violon du Jean Isaïe. Il a une étiquette à l'intérieur où il a écrit « Ce Guarnerius de Jésus fut le fidèle compagnon de ma carrière. » J'aimais toujours, je ne sais pas pourquoi, mais Isaïe était pour moi un des vrais géants dans l'histoire du violon. Comme il a vécu, comme il aimait vivre, cette joie de vivre, cette intensité avec qu'il existait dans son temps. Et un homme plus que 2 mètres d'hauteur, environ 150 kilos. Et non pas 150, bon 120, qui adorait la musique, le vin et les femmes, et pas tellement toujours dans cet ordre. Mais sans adorer la vie, on peut pas jouer la musique. On doit être heureux qu'on a le droit de vivre, et on doit trouver toujours la joie de vivre dans la musique. Et si on joue sans joie, on ne peut pas donner tout ce qu'il y a là-dedans.
Isaac Stern possède 9 violons et les prête à de jeunes artistes qui n'en ont pas. Mais pourquoi ces 2 instruments préférés, les plus précieux, sont-ils des Guarnerii del Gesù?
Premièrement, les grands Stradivari sont très difficiles à trouver. Il y en a. Mais il y a une certaine qualité pour les artistes de sur la scène, surtout avec les grandes salles aujourd'hui, où il n'y a que le Guarneri qui a la force, la puissance et en même temps la douceur, les qualités, les subtilités, qui peut vraiment exprimer tout ce qu'on peut faire avec un violon. Marquez-vous que Stradivari, il y a une qualité très très doux et très spécial, surtout avec les grands strades. Et c'est des instruments si beaux. Et il y a des grandes valeurs dans les Stradivari. Mais avec les Guarneri del Gesù, on se sent plus à l'aise. Les épaules sont un peu plus grands. Ils sont un peu plus profonds. On peut entrer dans la sonorité un tout petit peu plus avec un Guarneri. Avec les strades, on doit être un peu moins brutal, un peu prudent.
Voilà, Isaac s'est un peu assagi. Désormais, il refuse de travailler avec des orchestres mineurs dans des villes perdues, au fin fond des États-Unis ou en Europe. Il a donné, dit-il, et maintenant, il veut choisir ses concerts et garder du temps pour sa famille. Quand en 1964, Pierre Monteux et son vieux professeur Naum Blinder meurent, ils ont eu le temps de voir Isaac Stern à son sommet, plus heureux que jamais de jouer. « Je me sens béni des dieux. C'est extraordinaire de passer sa vie à apporter du plaisir aux autres. Pour un artiste, l'accomplissement ultime consiste à être désiré et utile. » Se sentir désiré et utile, se sentir aimé, moi je trouve que ce sont de jolis mots de fin. C'était Allô Monsieur Isaac Stern, une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amadeau. Le mixage est signé Delphine Baudet. La traduction Bernard Loupias, la voix Michel Biesse. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que Isaac vous donne rendez-vous sur francemusique.fr si vous voulez réécouter ou podcaster ses émissions.
À réécouter sur francemusique.fr.